17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui avec Yazid Sabeg qu'on ne présente plus, industriel, homme d'affaires. Vous dirigez une compagnie, la compagnie des signaux, cotée en bourse. Vous allez nous en parler dans un instant. C'est un honneur que de vous recevoir. Vous faites très rare et votre temps est précieux. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Grand témoin particulier en ces temps perturbés. La crise économique, le Covid, la guerre en Ukraine et bien d'autres choses. Et aujourd'hui, l'état de la planète est complètement chamboulé. Et vous nous en parlerez bien sûr. Et puis en France, un nouveau gouvernement, des élections législatives, des enjeux qui sont toujours aussi, avec une acuité aussi considérable. Donc merci d'être là d'abord.
Merci de me recevoir, merci pour votre accueil.
Alors, je suis très sensible.
Alors,
je disais, vous êtes un industriel, vous avez fait un peu vos classes dans le monde de l'informatique, de l'ingénierie, du renseignement, et on peut dire, peut-être sans trahir de grandes choses, un peu dans la défense.
Mon activité principale est dans le secteur de la défense. Effectivement, puisqu'on est un fournisseur important de la défense nationale, mais bon, nous avons des activités dans le domaine de l'énergie nucléaire, des télécommunications, de l'aéronautique et de l'espace également. C'est une très belle entreprise française dont je suis, et internationale, dont je suis particulièrement fier.
Alors aujourd'hui, c'est combien de chiffre d'affaires, combien de salariés,
Nous faisons un peu moins de 300 millions de chiffre d'affaires, on emploie 3000 ingénieurs à peu près. Et on a une excellente perspective de croissance. Nous sommes un systémier, nous faisons un grand système pour les domaines et les secteurs dont je viens de parler. Et nous avons d'excellentes perspectives.
Voilà, vous êtes en France, à l'international ?
Nous sommes moitié français, moitié internationaux.
C'est-à-dire, la mode est un petit peu à revenir en Europe, revenir en France pour les grands industriels. Ça vous touche, vous ?
Non, on a très envie, bien sûr, de venir en France. Il y a des domaines qu'on a de souveraineté, mais nous sommes très présents des domaines de souveraineté.
Vous êtes sensible aux histoires de relocalisation ?
Je pense qu'il faut relocaliser un certain nombre d'activités. Je pense notamment à l'énergie nucléaire, par exemple. Je pense à certaines activités autour de la défense et les composants, par exemple électronique pour la défense. Il faut les relocaliser très certainement en France, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. La France a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa substance et beaucoup, beaucoup de ses talents technologiques et de ses capacités novatrices. C'est factuel. C'est un fait. Et puis l'industrie, en France, la part de l'industrie, la production de richesses dans notre pays est atteint des niveaux qui sont parfaitement inacceptables et indignes d'un pays comme le nôtre.
Alors il y a une actualité prégnante et brûlante, c'est celle du renseignement. On l'a vu avec les élections aux États-Unis avec Donald Trump, hein, avec les Russes qui se sont un petit peu mêlés de la campagne, avec la Chine qui aussi espionne, avec l'URSS et tous les problèmes qui s'opposent. Donc on voit que le renseignement est consubstantiel de la défense. Et ça, c'est au grand jour. Le grand public, aujourd'hui, vit en temps réel ces affrontements sur les cyberattaques, sur le numérique, sur le renseignement. On arrête des espions, on en expulse d'autres, etc., etc. Et ça s'invective de part et d'autre. On a vu Donald Trump, on a vu Emmanuel Macron, on voit Poutine, etc. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, ça ?
Le renseignement est intrinsèque à la stratégie des États. On a besoin d'être renseigné, d'être informé. Mais vous savez, le renseignement, tout le monde, j'allais dire, se renseigne sur tout le monde. Tout le monde espionne tout le monde. Il n'y a pas les Chinois, les Russes particulièrement, les Français espionnent, les Américains espionnent, tout le monde espionne tout le monde.
Et avec, avec les satellites aujourd'hui,
bien entendu,
on arrive à voir un gamin qui joue aux billes et savoir combien de billes il a dans la poche. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas se moquer du monde que dire qu'on va monter de grosses opérations clandestines ? Tout est au su et au vu de tout le monde.
Le renseignement, c'est une chose. Il faut des moyens pour tout État qui se considère comme un État souverain et un État d'influence, c'est important d'avoir des moyens de renseignement, et on en a en France, évidemment, qui sont d'ailleurs très efficaces, contrairement à ce qu'on dit, d'une part. Mais il y a une chose plus importante, c'est d'avoir la capacité de se protéger contre les intrusions étrangères, contre les interceptions, contre les intrusions, contre les, ce qu'on appelle les malwares, contre les actions négatives. Ça, c'est ce qu'on appelle la cyberdéfense, qui est une activité importante chez nous. Il faut savoir que les grandes puissances dépensent plus d'argent pour se protéger des attaques, c'est-à-dire en mode défensif, plus d'argent que le mode offensif. Ça coûte énormément d'argent de se protéger, et les protections de nombreux pays, dont la France, j'hésite pas à le dire, la France est un pays qui a beaucoup d'efforts à ce domaine pour se protéger, protéger ses infrastructures vitales, protéger ses communications gouvernementales, protéger ses grands systèmes.
Quand on voit des puissances brandir des chars, brandir des centrales nucléaires, brandir même la bombe atomique, est-ce que ce n'est pas un peu désuet lorsqu'on sait que le nerf de la guerre, il est ailleurs, la vraie guerre se passe ailleurs?
Là, vous parlez des attributs de puissance, avoir une armée forte, organisée, bien équipée. Ce sont les attributs de puissance, et c'est très important d'avoir ces attributs. Il y a un club des puissances nucléaires dont fait partie la France. La France a un format, une organisation sur le plan, je dirais, militaire et sur le plan stratégique qui lui permettent parfaitement de tenir son rang. Non, ce sont des attributs extrêmement importants, au contraire.
Vous, par exemple, est-ce que vous vous défendez d'intrusion? On voit par exemple que la Chine, elle achète des ports en France, elle achète de la terre, elle achète des trucs. On voit que l'URSS aussi est... Est-ce que vous vivez cette menace d'espionnage ou de tentative d'intrusion dans certains secteurs de vos activités?
Je crois que, vous savez, ces 25 dernières années, les échanges économiques mondiaux, ce qu'on appelle la mondialisation, en un mot, a introduit de gigantesques bouleversements. Les centres de gravité économiques dans le monde ont changé, ont varié. La zone Indo-Pacifique est aujourd'hui la zone la plus puissante du monde, la plus dynamique. Les matières premières reprennent de l'importance après avoir été négligées pendant des décennies et avoir des prix qui ont dégringolé au détriment d'ailleurs de ceux qui les possèdent. Il y a beaucoup de pays en voie de développement. Et puis nous sommes sur ce qu'on appelle les supply chains, c'est-à-dire les fournitures. Nous sommes devenus maintenant interdépendants. J'aime beaucoup ce terme d'interdépendance parce que c'est ce qui qualifie le mieux la situation qu'on vit aujourd'hui. Et l'interdépendance, dans l'interdépendance, il y a dépendance. Il y a des dépendances qu'on ne peut pas accepter pour des pays qui se considèrent comme étant souverains et considèrent comme menacés s'ils sont dépendants d'autres sur les vaccins, sur les composants électroniques, sur un certain nombre de choses, sur certains types d'acier, sur un certain nombre de technologies. Ils sont dépendants. L'Amérique, par exemple, est un pays qui a une conscience du fait qu'il y a des choses dont elle ne veut pas être dépendante. Il y a même des domaines qu'elle veut dominer ou qu'elle veut se réserver à elle toute seule. Je pense aux composants électroniques, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a eu de tels bouleversements qu'aujourd'hui, on découvre qu'on est extrêmement dépendants les uns des autres. Quand je dis dépendants, nous sommes dépendants de la Chine. La Chine, dans une certaine mesure, dépend de nous, moins qu'on dépend d'eux, sur le plan de des supply chains. Les États-Unis dépendent de la Chine, et la Chine dépend partiellement des États-Unis. Donc, l'interdépendance qui est liée à la mondialisation et au libre-échange est un facteur avec lequel il faut savoir vivre. Peut-être qu'il faut l'adapter maintenant. C'est probable.
Justement, je suis très content que vous parliez de cette interdépendance, puisque cette interdépendance a créé ce qu'on appelle la multilatéralité, mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, cette multilatéralité vole en éclats. C'est-à-dire que tous les grands outils de régulation qu'on a créés après la guerre sont devenus, portions congrues.
Après quelle guerre ?
Après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a créé l'ONU, on a créé l'UNESCO, on a créé des G7, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que Donald Trump n'en fait qu'à sa tête. Il construit des murs, il reconnaît Jérusalem tout seul. L'URSS va se promener en Russie, à l'attaque l'Ukraine. La Chine fait des choses, fait ce qu'elle veut un peu à Taïwan. Bon, on a en Afrique les petits dictateurs qui sortent un peu les biceps, ils se disent après moi le déluge. Cette multilatéralité qu'on avait créée pour pacifier, pour créer un peu de un peu de paix, entre guillemets, entre les nations, vole en éclat et on est revenu dans une forme d'unilatéralité dans laquelle le renseignement est bien sûr la chose importante.
L'événement persistant qui est né après la Seconde Guerre mondiale, je dis bien persistant, majeur, subsiste. Il y a des puissances impériales qui se veulent souveraines. Trois ou quatre dans le monde. La Chine, les États-Unis sont les deux principales puissances souveraines aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Le reste de la planète, c'est, je vais pas dire c'est de la seconde ou de la troisième ou de la quatrième zone, mais il y a le reste du monde. Il y a eux deux, il y a le reste du monde.
Ça veut dire que les autres choisissent leur tuteur ou leur parrain, c'est ce que vous voulez dire ?
Ce sont deux puissances qui, dans leur poids respectif sur le marché des capitaux, sur la production industrielle, sur la taille du marché, etc., sur le patrimoine détenu, leur part dans les échanges mondiaux, ou le contrôle qu'ils ont sur les échanges mondiaux, fait que ce sont des puissances absolument gigantesques qui dépassent de très loin même le bloc européen dans son ensemble, qui pourtant est le plus grand marché solvable du monde. L'Europe, c'est quand même près de 500 millions d'habitants. Et on voit bien aujourd'hui que, vous parliez de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se révèle aujourd'hui ? C'est que les États-Unis sont très anxieux à l'idée de voir la Russie se coupler à l'Europe, par exemple, et tirer sa prospérité de l'Europe. Et l'Europe tire une partie de son influence et de sa prospérité de la Russie. Donc l'exercice du découplage en cours de la Russie et de l'Europe, voulu par les États-Unis, est certainement quelque chose qui est en train de fonctionner, qui sera décisif. Imaginez-vous un couplage très fort entre l'Europe et la Russie, auquel s'adjoindrait dans le cadre d'un pacte eurasiatique la Chine, c'en est fait des États-Unis. Voilà quelque chose qui est en train de se jouer sous nos yeux.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Les grands témoins, grands témoins aujourd'hui avec Yazid Sabeg. C'était passionnant cette discussion sur les grandes puissances, sur le renseignement. Aujourd'hui, l'actualité est là, on revient un petit peu en France. Un nouveau gouvernement. Vous avez été commissaire à la diversité, vous avez été ambassadeur à l'UNESCO, et on vous doit quand même l'ANRU, donc on vous doit beaucoup de choses au niveau du ministère de la Ville. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique de la ville, sur la lutte contre les discriminations, contre les inégalités? Quel est votre regard, vous qui avez porté ça à bout de bras, du temps de Nicolas Sarkozy?
Écoutez, j'ai commencé il y a très longtemps à m'intéresser à cette question d'égalité de traitement et du traitement de la justice sur le plan social. Il y a très longtemps, j'ai commencé essentiellement avec Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing. C'est une question que peu de gens portaient à l'époque, dans les années 70 et 80, même 80. Et il y a eu une transformation extrêmement importante dans ce pays, c'est qu'il y a eu une seconde génération de migrants, des enfants des immigrés, qui ont créé un choc social, un choc culturel, presque civilisationnel, dans ce pays, qui déjà acceptait peu les verdicts de l'histoire, notamment l'indépendance de l'Algérie et la décolonisation. La France s'est retrouvée avec des migrants sans les colonies. Ça, c'est également quelque chose qu'elle a eu beaucoup de mal à accepter, à comprendre. Puis après, il y a eu les enfants. C'est la marche des beurs, et les beurs, comme on l'a appelé, qui ont été reçus par François
C'était
Mitterrand.
C'était la marche pour l'égalité et contre le racisme.
L'égalité et contre le racisme, parce qu'on a vu, la France a vu, a pris conscience de cette jeunesse, de cette partie de sa jeunesse, de jeunes Français
Et d'ailleurs, ces jeunes qui étaient partis des Minguettes, parce qu'il y avait où il y avait du racisme, c'est l'année meurtrière, c'est l'été meurtrier où une cinquantaine de bavures de crimes racistes ont traversé la France. Ils ont marché donc contre les violences policières, ils sont arrivés à Paris et ils ont gagné entre guillemets la carte de 10 ans pour leurs parents. Donc ils ont marché contre les violences et ils ont eu la carte de 10 ans pour leurs parents.
Et on a eu l'antiracisme, ce qui était insuffisant parce que moi, dès le départ...
Antiracisme, vous voulez parler des SOS racisme?
Absolument. Ouais. Pour moi, c'était insuffisant. La réponse était insuffisante parce que je pense qu'il fallait, dès ce moment-là, poser la question des droits civiques, n'est-ce pas, de l'égalité de traitement, et il fallait parler de mesures correctrices. Moi, je n'aime pas ce terme d'égalité des chances. Parce que l'égalité des chances n'est qu'une obligation de moyens. Moi, je suis pour l'obligation de résultats. Et je ne me suis jamais caché du fait qu'il fallait, pour corriger, faire de la discrimination positive. L'action positive, pour moi, ça a été vraiment un des fils directeurs de ma vie. J'ai des enfants. Je suis français. Je suis franco-maghrébin. Je suis né en France. Et j'aime mon pays. Mais j'ai toujours eu ce questionnement sur qu'est-ce que c'est que l'identité de mon pays, comment je me construis, comment je m'assimile, j'hésite pas à le dire, dans mon pays, même si c'est quelque chose, un exercice réussi, pour ce qui me concerne. Je suis un homme prospère, j'ai réussi dans mon pays, j'ai toute la reconnaissance auquel je pourrais attendre, je suis un enfant de la République, oui. Il n'y a pas de sujet. Nous en sommes, pour ce qui concerne ma famille, nous en sommes à la quatrième génération dans ce pays. Donc, j'ai pas de. Je ne m'interroge pas sur est-ce que je suis laïque, pas laïque. Tout ça, pour moi, a toujours été étrange. Les questionnements de la majorité de l'opinion française et des dirigeants politiques qui n'ont jamais compris et jamais maîtrisé les conséquences de cette migration parce qu'ils n'ont jamais dit la vérité aux Français. Ils n'ont pas fait un effort suffisant pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'ai mis les pieds dans le plat au début des années 2000 en mettant au centre du débat public la question de la diversité. La France est un pays divers. C'est un pays multiethnique, appelons un chat un chat. Et c'est la diversité qui peut aider à combattre la racialisation des rapports sociaux dans ce pays. Et puis, je voulais le faire dans l'entreprise. Je pense également qu'il faut le faire dans les parcours initiatique et les parcours de succès sur le plan de l'éducation et de la formation. Donc je me suis concentré sur cet effort. Je considère également qu'il était essentiel de lutter contre les ghettos. Donc on a conçu, je l'ai fait avec Jean-Louis Borloo, conçu la politique de l'intégration urbaine qui a fonctionné jusqu'à ce qu'on la saccage au début de l'année 2010. Est-ce que ceux qui l'ont saccagé, c'est Hollande, François Hollande et d'ailleurs Macron qui était secrétaire général de l'Élysée avec Vallaud-Belkacem, ils ont achevé de saccager la politique de la ville et puis la politique dans la zone urbaine. Depuis, il ne s'est rien passé, ou pire que tout, on ne s'occupe plus de cette question centrale qui est l'assimilation sociale.
Mais aujourd'hui, on vous dit qu'on n'a jamais développé autant d'argent, mis autant de moyens sur l'ANRU, sur la politique de la ville.
Ça procède de l'imposture ambiante qui règne dans ce pays depuis 10 ans, au moins 10 ans. Il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai.
Alors, on voit aujourd'hui qu'il y a un vote autour de Mélenchon. Il y a un vote de contestation, il y a un vote de revendication qui est très très fort, qui s'exprime dans le pays après le premier tour et qui va s'exprimer aussi au niveau législatif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une politique de la ville ou pour que les choses soient mieux organisées et qu'il y ait plus de résultats?
Nous sommes un pays, une nation organique, dont une des caractéristiques est un État fort et un État qui pourvoit aux corrections des inégalités. Les Français, consciemment ou inconsciemment, considèrent que c'est à l'État de corriger les inégalités et c'est son rôle. Bon, dans ce domaine, le domaine de la politique, ce que j'appelle la politique de la ville, en tout cas ce que j'appelle les politiques d'assimilation sociale, les politiques de correction des inégalités, l'État ne fait plus son travail. Donc, ceux qui seraient en droit d'attendre ces corrections, qui seraient en droit d'attendre des mesures de cette nature, il faut qu'aujourd'hui, il est nécessaire aujourd'hui qu'ils manifestent leur mécontentement. Je ne vais pas dire pour qui il faut voter ou pas voter, c'est pas mon sujet. En tout état de cause, ils ont raison de s'indigner.
Et quand vous entendez,
et de se révolter, y compris par leur vote.
Quand vous entendez les territoires perdus de la République.
Mais c'est la République qui est perdue, pas les territoires.
Ça veut dire que la République a démissionné ?
Mais elle a démissionné de longue date, évidemment qu'elle a démissionné. Elle n'a pas joué son rôle ni ses fonctions.
Moi, c'est-à-dire que les partis de gauche et les partis de droite sont allés dans la compromission, ils ont acheté la paix sociale ?
Pas dans la compromission, ils n'ont rien acheté. L'histoire d'extrémistes ne me concerne pas, elle ne m'intéresse pas. Ce que je dis simplement, c'est que l'État, dans sa mission égalitariste et correctrice, n'a pas joué son rôle et ne le joue plus. Et ne le joue toujours pas. D'ailleurs, on vient de constituer un gouvernement. Je considère que la sécurité routière, le cancer ou le handicap, à juste raison d'ailleurs, sont des questions nationales. Jamais la question de l'assimilation républicaine n'est posée comme une question nationale. Or, c'en est une. C'est peut-être la plus importante aujourd'hui dans le pays.
Alors, une ou deux, trois mesures que le gouvernement d'aujourd'hui devrait prendre, par exemple.
Nommer un ministre de la ville, qui est un ministre d'État, avec un pouvoir d'action et de regard sur la manière dont sont affectées les ressources collectives dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, l'accès aux soins, dans le domaine du logement. Voilà, l'éducation, la formation, le logement et l'emploi. Imaginez-vous que Pôle emploi n'existe pas dans les quartiers. Vous n'avez pas un seul quartier avec une agence de Pôle emploi. Vous avez des missions locales. On n'a toujours pas d'agence.
Emmanuel Macron a nommé un ministre du Travail et du Plein Emploi.
Oui, non, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je parle de possibilités. Il faut des politiques spécifiques. Il en faut. Parce qu'il faut corriger les inégalités. Les inégalités structurelles. Hein, même si le gouvernement actuel n'aime pas les mesures structurelles, il y a des mesures structurelles à prendre s'agissant de la correction des inégalités, notamment les inégalités sociales qui sont aggravées par les discriminations.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Les grands témoins avec Yazid Sabeg, merci d'être là. On a parlé donc de votre société, de la politique de la ville, de la diversité, de votre travail, de vos engagements. Vous êtes vous attachez beaucoup d'importance à la décolonisation, à la mémoire. Et vous avez une phrase, vous dites « La France, la République, a commis une faute irréparable en Algérie ». Ça veut dire quoi ?
Elle a commis une faute irréparable. D'abord, la question c'est d'avoir colonisé, c'est le terme consacré d'avoir colonisé un territoire avec des populations qui ne faisaient pas partie de la France, historiquement, ni géographiquement. Il y a une mer qui sépare la France d'Algérie, mais on a débarqué au Maroc et il y a eu une conquête sanglante pour soumettre des populations qui refusaient la soumission. Ensuite, il faut irréparable, elle a commis ce vide elle-même. Sous la Troisième République, a institué quelque chose d'immonde qui s'appelle le séparatisme. Elle a créé deux catégories de Français sur son territoire, en Algérie. Les Français musulmans, les indigènes, en toute connaissance de cause, auxquels on n'appliquait pas la laïcité, que je sache. On leur appliquait la charia, qui est dénoncée ici. Quand j'entends M. Valls s'exprimer sur cette question, en ignare qu'il est, on n'a jamais appliqué la laïcité en Algérie. Ils avaient le droit, si j'ose dire, on leur imposait la charia. Et la charia qui avait cours en Algérie, pour les musulmans.
Et vous dites vous-même que...
Voilà un vrai séparatisme.
Même la polygamie, quoi.
Mais écoutez, le livret de famille de mes parents, qu'est-ce qui est écrit ? République française ? quand on regarde l'état civil familial.
Première femme, deuxième première femme, femme, deuxième, femme
première épouse, femme, première épouse, épouse deuxième épouse, troisième épouse. Même la polygamie, la République s'en est accommodée. Et c'est la République qui l'a instituée. En Algérie.
Donc, département français. Donc en fait, vous dites que la République a commis un crime envers elle-même.
Mais bien entendu. Mais bien entendu. Et donc ce problème-là, il faut qu'elle le résout, non pas avec l'Algérien, mais elle, vis-à-vis d'elle-même.
Et ce n'est pas le travail que Emmanuel Macron a fait en ouvrant les archives.
Absolument inexact.
En reconnaissant
le problème n'est pas entre la France et l'Algérie. Pour moi, la question de la mémoire, et je m'en suis exprimé avec mon ami Benjamin Stora, question de la mémoire, c'est d'abord une question nationale. C'est aux Français de faire leur examen de conscience sur la question coloniale. Et puis, je vous dis, sur les trahisons de la République.
Et vous dites que la France continue la guerre de conquête. Elle continue sa guerre coloniale.
Pour moi, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Il y a toujours le regard qui est porté sur l'Algérie, l'arabe aujourd'hui de façon générale, qui est un regard...
Ça se manifeste comment ? Par
l'inégalité de traitement.
On ne fait pas monter des gens au gouvernement.
Par les procès qu'on fait au quotidien, l'insulte, les procès qu'on fait au quotidien aux musulmans pour ce qu'ils sont, comme ils s'habillent, comme ils doivent se comporter. On leur continue à faire la leçon. On prétend même aujourd'hui leur dire voilà comment vous devez vous habiller, comment vous devez respirer, comment vous devez vivre, pas autrement, en raison de nos us et coutumes domestiques. Écoutez, moi je pense qu'à partir du moment où l'État commence à être le prendre la responsabilité de gérer les consciences, de gérer... des personnes, le droit d'agir en toute liberté doit être reconnu à tous les citoyens de façon égale. Je considère qu'on ne traite pas de façon égalitaire les musulmans de ce pays.
Et on voit très peu de gens, en tout cas dans les postes importants, dans les médias, dans la justice, dans le corps enseignant, au niveau politique. Très peu de gens sont nommés, très peu. On a l'impression qu'il y a une politique.
C'est la mise à l'écart. Voire l'ignorance, c'est une pratique bien connue en France, évidemment.
Il y a une diversité cosmétique qui se met en place.
Même pas.
Au détriment d'une vraie diversité.
Même pas. Non, on prend même plus de précautions dans ce domaine.
Il y a des pots de fleurs et.
La gestion de la diversité était un. De toute façon, dès qu'on parle de diversité, vous avez toute la partie de la droite française, plein de milieux conservateurs qui se rebellent. On ne sait pas pourquoi. La France, on voudrait éradiquer toute différence, toute diversité dans ce pays. Bah, écoutez, malheureusement, ce n'est pas possible.
Alors, votre sentiment pour conclure, votre sentiment, où va la France ?
Bah, écoutez, moi, je suis... je ne vis plus en France. J'habite dans un pays voisin. Je suis pas réduit. Je suis très attentif à ce qui se passe en France, bien entendu. Mais je pense que la France doit faire un très gros effort de tolérance et de sortir des faux débats. Le rapport que la France entretient avec les questions culturelles, avec la religion, les relations civilisationnelles qu'elle entretient avec ses minorités, il y a un vrai sujet. Il faut sortir des faux débats. Les questions sont économiques et sociales. Culturelles, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de sujet. Je ne connais pas de maghrébins qui ne se projettent que comme arabo-musulmans. Ça n'existe pas. Je n'en connais pas. En tout état de cause, ce n'est pas conforme à l'idéal républicain tel que je me fais. Et maintenant, l'utilisation systématique et systémique du mot république, dans lequel on ne met pas d'ailleurs la même chose, Monsieur Valls et moi, par exemple, hein, ou Monsieur Macron et moi, je ne mets pas la même chose. Quelque chose qu'il faut maintenant corriger. Et puis, c'est pas parce qu'on est républicain qu'on a tous les droits vis-à-vis des minorités.
Yazid Sabeg, merci d'avoir accepté notre invitation. On n'a qu'une envie, c'est de vous réinviter et de vous réécouter. À très bientôt.
On le fera avec plaisir. Merci.
À bientôt. Au revoir.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.